les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on se détend, c'est la fin de la semaine, mais il y en a pour qui c'est tout le temps la fin de la semaine. Des glandeurs professionnels, l'émission est consacrée à l'art de la paresse, très très mal vue dans nos sociétés de la performance, de l'hyperactivité. Alors, y a-t-il une bonne et une mauvaise paresse? On va en discuter avec nos invités. Frédéric Chouraki, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La France qui glande, mais pour l'écrire, vous avez pas mal bossé, en fait. Donc on est déjà un peu dans l'imposture par rapport à notre sujet, non? Je sais pas.
Oui, oui, tout à fait. Bah, bon, la glande ne signifie pas, enfin, en tout cas pour moi, l'absence totale d'effort ou de travail. C'est simplement un effort orienté vers quelque chose qui fait plaisir et qui n'est pas forcément productif.
Donc, ça ne veut pas dire qu'on a le cerveau totalement vidé. Pierre Cassou-Noguès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe à l'université Paris 8, auteur de La mélodie du tic-tac et autres bonnes raisons de perdre son temps. Philosophe, c'est beaucoup plus crédible déjà pour parler du sujet, non?
Pourquoi?
Bah parce que vous le dites vous-même, non? L'inactivité, c'est le sol sur lequel s'appuie la philosophie?
Oui, enfin, je ne pense pas après que seul le philosophe soit habilité à parler de la glande ou de la paresse ou du temps perdu.
Non, la preuve, un ancien journaliste en face de vous. Mais enfin, vous êtes aussi agrégé de maths. Alors là, on se dit, ça y est, on est tombé sur un surdoué. C'est peut-être pas le top pour parler de l'inactivité, un surdoué.
Bah, pour une part, le livre est thérapeutique, c'est-à-dire que pour moi, il s'agit de s'efforcer de perdre son temps, de ne rien faire, et c'est difficile. Je ne sais pas si ça demande un effort physique ou du travail, mais au moins, ça demande un changement d'attitude. Et voilà.
Bah c'est ce qu'on va essayer de faire. Et autant vous dire tout de suite, ça je le dis pour les auditeurs, c'est une émission pour laquelle on n'a presque rien foutu et c'était tellement délicieux. Moi, j'ai quitté le bureau hier en début d'après-midi, je suis allée me promener en réfléchissant à comment parler de ne rien faire. Et hier soir, je suis allée voir le dernier film de Paolo Sorrentino, Silvio et les autres, alias Berlusconi. Le film se passe pendant 2h30 au bord d'une piscine en Sardaigne, hein, avec des filles évidemment. Berlusconi, le précurseur des populistes du 21e siècle, tripatouilleur politique, un peu glandouilleur, même beaucoup, un inspirateur pour Donald Trump, réputé assez peu travailleur finalement pour un président de la première puissance mondiale. Et on s'est aussi demandé à quoi pouvait ressembler la paresse en Corée du Sud. Frédéric Ojardias, notre correspondant, nous dira pourquoi et comment on prend le sujet très au sérieux. Il y a même des compétitions d'oisiveté. Et quant à vous les voisins, ne faites pas semblant, on parle d'un rêve universel, hein. On est d'accord, oisif, rêveur, glandouilleur du monde entier, d'ailleurs on en débattra hein, sur les termes, les définitions, vous avez la parole. Et vu que vous n'êtes pas débordé, vous avez forcément le temps de nous appeler, alors ne procrastinez pas parce que l'émission quand même passe assez vite, hein. La pendule et les secondes tournent, 33 1 84 22 71, 71 c'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp. Dites-nous à quel moment vous ne faites rien et qu'y a-t-il exactement dans ce rien, dans cette flânerie? 33 1 84 22 71 71. En fin d'émission, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, les mots ont-ils le pouvoir de guérir les enfants? Je vous lis quelques messages postés sur nos réseaux sociaux. Hosanna au Tchad nous dit ici en Afrique, la paresse est involontaire parce qu'il n'est pas facile d'avoir du boulot. Et moi, quand je ne fais rien, je joue du matin au soir au Ludo ou aux dames. Et le soir, je vais au cinéma. Ça, c'est le travail de beaucoup de jeunes au Tchad. Ouais, encore faut-il avoir les moyens de se payer le cinéma et qu'il y ait un cinéma dans la ville où on vit, ce qui n'est pas évident sur le continent africain. Sergio, étudiant à Bangui, je n'aime pas la paresse. Je n'ai pas cours, je travaille comme moto-taxi ou bien je lis les journaux et je fais du sport. Les jeunes Africains perdent du temps avec les jeux vidéo et les dames. les dames, pas le jeu de dames hein, cette fois-ci. Lilia à Toronto, au Canada. Moi, j'ai goût à rien. Je tire les rideaux, je m'allonge. Le silence me fait tant de bien, ça me repose et me régénère. Diderot à Yaoundé, ça ne s'invente pas. Prof d'espagnol, il nous écoute souvent, Diderot. Il nous écrit, il aime bien nous écrire. Voici ce qu'il nous dit sur le sujet. Certains jours, je me réveille, je m'étire. Toutes les articulations font crac. Et je me couche encore, je dors jusqu'à avoir faim, je me lève, je me lave et je mange jusqu'à avoir sommeil. Et le cycle recommence. C'est ce que je fais quand je ne fais rien. Voilà, appelez-nous maintenant au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Asta nous appelle du Cameroun. Bonjour Asta.
Bonjour.
Alors Asta, il vous arrive de ne rien faire, mais je crois que ça vous inquiète, non? Vous n'aimez pas l'oisiveté?
Ah non, comme je disais dans mon message, je déteste l'oisiveté.
Et pourquoi donc?
Bah, parce que quand je fais rien, je passe mon temps à manger.
Ah.
J'arrête pas de bouffer.
Donc vous faites pas rien finalement.
Bah, un peu quand même, quoi, parce que passer le temps à manger devant la télé. C'est pas très sain aussi.
Ça veut dire que vous n'avez pas découvert la bonne oisiveté, finalement.
Voilà, exactement. À un moment de ma vie, je suis restée sans boulot, sans rien faire. Du coup, je passais mes journées à la maison.
Ouais.
Et comme j'aime cuisiner, voilà, je cuisine, je mange, je cuisine, je bouffe, je cuisine, je bouffe. Et voilà, c'était mon quotidien. Et ça a occasionné une prise de poids.
Ouais.
Et voilà.
Mais alors finalement, l'oisiveté est un peu associée chez vous à une forme de tristesse, de climat un peu dépressif ou pas du tout?
Oui, exactement.
Ouais.
J'aime pas rester sans rien faire.
Ouais, c'est pas du tout le plaisir qui était décrit par certains de nos auditeurs juste avant. Alors, Asta, vous vivez dans une zone qui est tendue dans le nord du Cameroun. Vous êtes à Garoua, une zone qui est tendue par le conflit avec le Cameroun anglophone. Est-ce qu'à certains moments, quand les gens ont peur de sortir de chez eux et vivent une oisiveté forcée, comment elle peut se caractériser, cette oisiveté?
Bah, ici, on va dire que les gens choisissent d'être oisifs, en fait. Parce qu'il y a peut-être des troubles, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour s'occuper. Mais bon, ici, chez nous, les jeunes, ils préfèrent rester sous les arbres, regarder les gens passer, voilà, rien foutre. C'est un peu le quotidien de la plupart des jeunes ici. Mmh.
Vous êtes sévère, hein, quand même, pour ceux qui ne font rien. Merci de nous avoir appelé, en tout cas, Asta, merci. Et bien sûr, vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 1 84 22 71 71. Vous avez le droit de réagir, hein, bien sûr, Pierre Kassounoguès, Frédéric Chouraki.
Non, il y avait quelque chose de très juste, c'est que l'oisiveté, elle est belle quand elle est voulue et pas quand elle est forcée. Qu'il y a quelque chose comme la solitude qui, si on est abandonné, la solitude est atroce. Mais elle peut être très belle si elle est voulue. Et c'est quelque chose de comparable avec la paresse. Que la paresse, c'est justement une oisiveté, une décision de ne rien faire et de se libérer du temps pour soi. Mais en revanche, le fait d'être privé d'activité, c'est tout à fait différent.
Une oisiveté qui se construit hein, avec un savant mélange de flânerie intellectuelle. On va en discuter, vous restez bien sûr avec nous et je redonne le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71.
T'as pas envie des fois de pas rien faire?
Non.
Ouais, moi pareil.
On est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche.
Ça ressemble à quoi tes journées maintenant?
Ah non, mais moi je glande, attention. Moi je glande, c'est admis.
Ah, zéro pour le paresseux.
Je crois bien que je passerai le week-end dans mon lit.
Je vous paresseux, il est 7h.
Moi aussi j'ai beaucoup réfléchi et je crois que j'ai envie de faire exactement comme toi.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Bah rien foutre, comme toi. Finalement c'est un peu ça le but dans la vie, non? Réussir à rien foutre.
Est-ce que vous connaissez Tom Hutchinson, tous les deux?
En fait, j'en ai entendu parler, j'ai pas lu ses livres, mais il y a eu un article dans Le Monde, et c'est un petit peu le glandeur à la mode, en vogue, actuellement, parce qu'il a écrit deux essais, je crois, sur ce sujet. Et d'après ce que j'ai lu, en fait, ça ne correspond pas tout à fait à mon idée de la glande.
Parce alors, que... justement, on va lui donner la parole. Hein. C'est, on pourrait l'appeler le gourou de la glandouille. Enfin, je sais que vous détestez ce mot, Pierre Noguès, hein, la glande, non ?
Ah non, pas non du tout. Je trouve que c'est un très beau mot. Alors, apparemment, ça vient du Moyen-Âge. Glander, c'est amener ses cochons dans la forêt pour qu'ils trouvent des glands. Et donc, on les regarde sans rien faire.
C'est ça. C'est pas du tout. Non plus une image extrêmement positive, mais bon.
Bah, c'est-à-dire que c'est aussi associé, si on ne connaît pas le mot, parce que c'est vrai que ça vient, en fait, c'est les porchers qui allaient à la glander, comme vous le dites, mais c'est aussi associé à quelque chose de biologique. La glande, c'est ça. Il y a des connotations médicales qui, a priori, peuvent répugner les gens. Donc, le mot est en lui-même peut être répulsif.
Je trouve qu'il est tout à fait intéressant, justement, par le fait qu'il désigne au départ une véritable inactivité, regarder ces cochons manger des glands, et en même temps, comme on se sent coupable toujours de ne rien faire, on lui a associé cette connotation péjorative, s'occuper de ses glandes. Et je trouve justement, c'est un très beau mot que j'aime bien, non ?
Juste la vraie question, c'est en fait, qu'est-ce que fait le porcher pendant que ses porcs mangent des glands ? Est-ce qu'il ne fait rien ? Est-ce qu'il rêvasse ? Est-ce qu'il peint ? Est-ce qu'il réfléchit ? Est-ce qu'il crée ? Est-ce qu'il chante ? Donc
ouais,
voilà, en fait, ça peut se jouer là.
Pas évident, voilà. Hein, non plus, en regardant ces cochons ramasser des glands, pas évident d'amener son attirail pour peindre. Donc on peut imaginer effectivement que le porcher qui glande vraiment. Alors, Tom Hodgkinson, on pourrait l'appeler le gourou de la glandouille. C'est un écrivain, un essayiste britannique. Il publie « L'art d'être oisif », manuel pratique pour chaque heure de la journée de l'oisiveté. Ça a été traduit, vendu dans 17 pays. C'est déjà un best-seller international. Et son précédent livre « L'art d'être libre », sous-entendu « pas réduit en esclavage par le travail », a été également un immense succès dans les pays anglo-saxons, précisément dans des cultures protestantes où l'on croit plus dans le travail qu'en Dieu. On l'écoute.
L'exemple classique du paresseux, c'est celui qui n'arrive pas à se lever tôt le matin. Je fais partie de ces gens-là, j'ai beaucoup de mal à me lever. Certains aiment se lever tôt, mais beaucoup d'autres non. Il n'y a pas de mal à aimer dormir. L'un de mes héros, Samuel Johnson, connu sous le nom de Dr. Johnson, était journaliste, écrivain, dramaturge, il a aussi écrit un dictionnaire. Bref, il était très productif, mais aussi très paresseux. Chaque matin, il restait dans son lit, mi-éveillé, mi-endormi, presque toute la matinée. On aurait pu dire qu'il s'agissait de paresse, mais quand il se mettait à écrire son article du jour ou de la semaine, il le faisait très rapidement, en une demi-heure ou une heure. Et bon, après, il allait au pub. Voilà, la révolution industrielle a créé des journées de travail très longues. Et maintenant, nous avons ces choses qu'on appelle des réveils matins. Ce sont des briseurs de rêves.
Et dans votre livre, vous écrivez « Les gens qui se lèvent tôt ne sont ni en bonne santé, ni riches, ni sages. Si vous ne me croyez pas, observez les visages épuisés et tristes autour de vous dans le métro, dans les grandes villes des pays industrialisés, Londres, Tokyo, New York, Paris, entre 8 et 9 heures du matin. »
Oui, tôt le matin. Ils n'ont pas l'air très heureux. Il y a près de 3 ans, je me suis débarrassé de mon smartphone après une prise de conscience. En fait, je marchais seul à Londres pour me rendre jusqu'à une station de métro et je consultais mes mails sur mon téléphone. Et je me souviens m'être dit « Waouh, c'est génial! Maintenant, je peux même travailler en marchant !»
Waouh,
non, mais ce n'est pas bien en fait, c'est mauvais. Je l'ai compris. Bien sûr que nous devons travailler, gagner de l'argent, mais nous travaillons pour créer du temps de loisir. C'est ce que les philosophes grecs, comme Socrate, nous ont appris.
Vous vous intéressez aussi à différents moments de la journée, comme le déjeuner. Vous regrettez sa disparition.
Dans les années 90, à Londres, quand je travaillais au journal The Guardian, nous prenions de très longues pauses déjeuner. Nous buvions une bouteille, voire 2 bouteilles de vin, et le déjeuner durait jusqu'à 16h, 17h. Bon, les Français ont aussi longtemps été réputés pour cela. Mais maintenant, c'est plutôt mal vu d'avoir un déjeuner correct comme ça. Voilà la journée de travail que j'aimerais avoir dans un monde idéal. J'irai travailler de 9h à 13h, l'heure d'un long déjeuner, pendant lequel on réfléchit à des idées. Après, on peut même faire la sieste, pour ensuite revenir au bureau pour 1 à 2 heures de travail. Et hop, on rentre à la maison à 18h. Ça serait une journée de qualité pour moi.
On a l'impression que c'est un concept qui devient assez tendance aujourd'hui, mais est-ce que l'oisiveté, ce n'est pas aussi un privilège que tout le monde ne peut pas se permettre ?
En Angleterre, nous employons l'expression « idle rich », qui veut dire « les riches oisifs ». Parce qu'à l'époque, les aristocrates passaient leur temps assis à ne rien faire. Les gens qui s'opposent aujourd'hui à cette idée d'oisiveté ont lancé la propagande selon laquelle seuls les riches pourraient être oisifs. Ce n'est pas vrai. Si vous regardez les riches aujourd'hui, ils sont incroyablement occupés. Et quand on leur demande comment ils vont, ils répondent « Je suis très occupé ». Ce qui veut dire « Je réussis, je suis vraiment important et je gagne beaucoup d'argent ». Et les gens défavorisés tendent aussi à beaucoup travailler. Mais en fait, tout le monde peut se permettre d'être oisif, car c'est gratuit. Vous savez, c'est facile de consacrer plus de temps à l'oisiveté dans sa journée. À la pause déjeuner, vous pouvez faire une longue promenade à pied, aller à l'église par exemple, ou vous pouvez faire du vélo au lieu de prendre les transports ou de conduire. Vous pouvez aussi voir vos amis à un moment. Quand mon livre est sorti, certains lecteurs m'ont écrit pour me dire « Vous êtes un bon avocat pour l'oisiveté, je comprends en quoi c'est positif, mais je me sens coupable, je me sens vraiment mal quand je ne travaille pas. » Pour moi, cette culpabilité associée au travail, c'est un concept inventé par l'homme. Nous sommes tous encouragés à être occupés et à travailler très très dur. Nous arrivons aujourd'hui à un moment particulier de l'histoire. Les technologies devraient nous conduire à moins travailler.
Frédéric Chouraki, vous disiez que vous n'étiez pas forcément d'accord avec Tom Hodgkinson qu'on vient d'entendre.
Oui, parce que lui, d'après ce que j'ai compris, promeut vraiment, c'est-à-dire de rester dans son lit. Moi, ça me fait penser au roman de Kontcharov, Oblomov. Et en fait, il y a une glande qui peut confiner vraiment vers la névrose, alors, vers la dépression.
Là, c'est l'histoire d'un type qui
sort pas de son lit, en fait.
Voilà, sur son divan, un roman qui a été écrit au milieu du 19e siècle, et même l'amour de sa femme ne parvient pas à le sortir d'une forme d'apathie. Mais en fait, c'est de la glande dépressive, lui.
Voilà, donc il y a la glande, en fait, pour moi, ce qui est important, c'est que la glande, c'est une notion polysémique, c'est-à-dire, en fait, c'est un mot un peu fourre-tout qui peut recouvrir, enfin, ça recouvre le sens qu'on veut bien lui donner. Donc pour moi, il y a une glande qui peut confiner vers la dépression, vers l'apathie, comme vous dites, vers les médicaments, etc. C'est la glande un peu non choisie. Et il y a aussi une glande joyeuse, hédoniste, celle que j'essaye de promouvoir dans La France qui glande, et qui peut recouvrir un petit peu la glande à la française, c'est-à-dire la glande où on peut se lever tôt. Moi, par exemple, je suis un glandeur. Mes amis me considèrent comme un glandeur. Au regard de la société macronienne, je peux être vu comme un glandeur. Et en même temps, je me réveille à 7h30, j'écoute France Inter, mais après, je me dis, je vais au café pour lire le journal, quel film je vais voir, quel cycle il y a dans le quartier latin de Tarkovsky. Ensuite, je vais fumer du narguilé avec mes amis pendant 3 heures. Moi, c'est ma conception de la glande. En fait, c'est quelque chose qui peut être débattu. Ce n'est pas un dogme ou une doxa.
Vous nous expliquerez après comment vous faites pour vivre de la glande. Pierre Kasounogas, c'est intéressant parce qu'on commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est le début de la fin des rentiers, en fait. C'est une élite en Europe qui ne faisait rien, enfin, si ce n'était regarder travailler son argent ou ses terres. Il y a toute une partie de la littérature qui est pétrie de ces activités-là, hein, où on ne fait pas grand-chose, si ce n'est, enfin, on se cultive, on va au spectacle, etc. Mais il y avait une partie de la société qui avait ce privilège-là. Or, aujourd'hui, on le voit, même les gens très riches travaillent énormément. Les patrons sont super occupés. Ça a complètement changé. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de sentiment de satiété aussi pour l'argent ?
Alors, ça a complètement changé, peut-être seulement pour un temps. À savoir, on peut, et c'est pour ça que promouvoir la paresse est, je pense, important politiquement aujourd'hui, qu'on peut tout à fait penser que le travail va continuer à se raréfier dans les sociétés occidentales, au moins, à la fois à cause d'une mécanisation du travail et puis pour des logiques de délocalisation. Mais que donc, on va avoir de moins en moins de véritable travail, c'est-à-dire de moins en moins de choses vraiment à faire, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Et ça pose un problème politique qui est celui de redistribuer le loisir dégagé par la mécanisation du travail, que si les caisses au supermarché, les caissiers au supermarché sont remplacés par des machines, il faut que le caissier qui ne travaille plus ait une part du loisir dégagé, c'est-à-dire un salaire à ne rien faire. Donc il y a ce problème politique, mais il y a aussi un problème idéologique qui est de cesser de se sentir coupable à ne rien faire. Et cette idée, justement, que ne pas travailler, c'est péché, c'est une idée qui remonte quelque part au XVIIe siècle, justement, dans une morale protestante, que vivre, c'est travailler. Et je pense justement qu'il est très important de se détacher de cette idée pour accepter le fait que les machines travaillent à notre place et que nous avons de moins en moins de choses utiles à faire.
Ouais, enfin, dans le monde d'aujourd'hui globalisé, parce qu'il n'y a pas que l'Europe, hein, Frédéric Chouraki, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impudeur à ne pas travailler beaucoup, ne serait-ce que par respect pour ceux qui y sont contraints pour survivre?
Oui, tout à fait. En fait, moi, je pense que la glande, bon, si elle...
Vous êtes impudique, vous, dans ce que vous décrivez.
Non, moi, je revendique un petit peu ça, mais c'est vrai que pour moi, c'est une forme d'aristocratie, la glande, telle que je la conçois. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait son deuil du travail, forcément de l'argent, de l'autorité, etc. Et après, on plie le monde, finalement, à sa volonté. Alors, c'est vrai que ça implique peut-être un certain niveau d'études, ça implique une volonté incroyable dans ce monde. C'est très, très compliqué de glander. Et même si la France est considérée comme le pays de la glande, de l'hédonisme, du sybaritisme,
et des gens
c'est très mal
et
vu.
Et un système tolérant autour de vous, soit un système politique avec de l'aide sociale, soit des personnes bienveillantes qui vont vous inviter ou vous aider, je ne sais pas, parce que comment vous vivez, vous, par exemple?
Je vis avec des personnes bienveillantes, comme vous le dites, avec les minima sociaux, avec une légère fraude, avec de la débrouille. Donc ça implique, comme cette volonté est très forte, finalement, le monde finit par se plier à cela, et même les gens, parce qu'il y a toujours ce phénomène d'à fois d'attraction et de répulsion. C'est-à-dire que les gens disent « c'est un glandeur » et tout, et en même temps, il y a en chacun de nous, même s'il est incapable de le faire, la volonté de glander sans s'en donner les moyens. Donc quand on trouve quelqu'un qui est un bohémien, qui écrit des livres, qui passe son temps en vacances, etc., il y a une volonté finalement de l'aider.
Vous êtes un peu dans la provocation quand même.
Non, la glande en
parce
soi
que
est une provocation.
Vous ne pouvez pas le revendiquer en tant que système, par définition.
Non. D'ailleurs, la
vous
glande...
Vous pouvez en profiter parce que d'autres ne le font pas ou...
Exactement. C'est-à-dire que moi, je dis souvent, si tout le monde faisait comme moi, l'économie française, déjà que ce n'est pas terrible, se casserait... Il y a toute cette théorie du collapse, là. Elle se casserait encore plus la gueule. Donc moi, la glande, c'est quelque chose d'exclusif. Moi, je ne veux pas que tout le monde glande, parce que moi, je veux que le système continue à... Parce que moi, j'ai eu le courage de glander.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, c'est 7 milliards de solutions possibles.
Communiquons le plus possible.
Plus qu'une émission, c'est devenu une famille.
Tout part d'un rêve. Tout part d'un rêve.
C'est 7 milliards de cœurs qui se mettent en commun pour n'en former qu'un seul.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Un voisin nous appelle de région parisienne. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors vous nous appelez parce que vous êtes un glandeur professionnel ou pas?
Je dirais pas dans le comme ça parce que ça a une trop mauvaise image.
Mais, ah c'est ça, c'est difficile à avouer.
L'idée que je voulais dire, c'est que moi, le but de travailler, c'est pas le but de m'enrichir ou que tout le monde m'admire. La démarche pour moi, je suis consultant et l'idée, c'est qu'on me donne une tâche et souvent un délai pour le faire. Alors la plupart du temps, on demande aux consultants, si possible, de prolonger ce délai en travaillant pas trop au boulot et du coup, tout le monde est content. Peut-être pas le client. Moi, ma démarche est totalement inverse. Je me dis, vu que je suis payé pour faire cette tâche, et que je suis payé même quand je ne travaille pas, puisque ce n'est pas à moi à trouver mon travail, on est censé me le donner,
oui.
Ce que je fais, c'est que pour pouvoir être tranquille, et ce qu'on appelait glander, c'est-à-dire être chez moi, mieux que perdre mon temps au travail, je vais faire ma tâche non pas en 6 mois, mais en 1 jour, 2 jours, 3 jours, peut-être 1 semaine, quand c'est très long. Et du coup, je suis tranquille pendant 1 mois, 2 mois, c'est le temps que l'ingénieur d'affaires me redonne du travail.
C'est ça,
donc
d'accord.
L'idée, c'est que je suis tellement feignant que je travaille beaucoup, mais à temps court, pour pouvoir profiter au maximum de ma famille.
Oui.
Parce que la démarche qu'on disait peut-être côté aristocrate, c'est vrai, c'est que normalement, on essaie de nous faire croire qu'on doit travailler tout le temps. Si je profitais de mon travail, peut-être je travaillerais plus. Mais aujourd'hui, on travaille beaucoup. Pour satisfaire les besoins.
Et du coup, la promesse
doit lui profiter de tout notre
travail.
C'est
ça. Mais alors, ça veut dire que la promesse d'oisiveté peut nous permettre de finalement de bien mieux supporter le travail en le faisant le plus efficacement possible. C'est pas valable pour toutes les catégories professionnelles. Il faut quand même le reconnaître, non, Frédéric Chouraki?
Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur parce que, en fait,
vous avez été dans ce cas-là, d'ailleurs.
Oui, moi, par exemple, j'ai travaillé un peu en journaliste, en tant que pigiste, et moi, j'avais terminé mes articles, c'était pour un journal médical, à 14h. Et je me débrouillais pour aller très vite. Et en fait, je disais maintenant, il faisait beau, j'avais envie d'aller au café. Et donc, j'inventais des réunions, etc., pour en fait, on me retrouvait au café en train de lire Libé.
D'accord. Mais quand on travaille dans un call center, Pierre Kassounogues,
on ne peut pas perdre son temps, qu'on est constamment sollicité. Alors, moi, je suis pas du tout d'accord avec l'idée d'une aristocratie de la glande. Moi, je suis pour que le loisir, le temps inutile, soit également réparti entre tout le monde. Et la difficulté ensuite, et là où il faut faire un effort, c'est pour justement ne pas se laisser manger ce temps inutile. Et justement, le call center, est-ce que nous-mêmes, on ne tend pas à devenir des opérateurs de call center en envoyant constamment des messages inutiles, en fait, qu'on envoie un message inutile à quelqu'un qui vous répond d'un message inutile et le temps est entièrement mangé. Et en fait, c'est du temps qui est libre, dans lequel on pourrait ne rien faire. Et ce temps... par le téléphone, il est transformé en un temps marchand de nouveau, où en fait, voilà, il y a des échanges marchands de publicité, et c'est vraiment une façon pour le capitalisme, donc, disons-le.
On est bien d'accord, le temps de ne rien faire, pour vous, c'est pas surfer sur Internet.
Hein. Non, c'est ne rien faire. Ne rien faire, regarder le mur en face de soi, à la limite flâner, mais en tout cas, rien qui produisent quelque chose, pas même écrire un livre.
Alors d'ailleurs, juste un mot sur les lieux de flânerie, parce que Frédéric Chouraki, je crois que vous aimez bien les cimetières.
Oui, enfin pas particulièrement.
C'est un lieu où tout est interdit, on peut pas jouer au ballon, on peut pas parler fort. Enfin, c'est un lieu qui oblige à, si ce n'est une forme de méditation ou de prière, en tout cas, à ne pas faire grand-chose.
Là où je suis d'accord avec Pierre Kasounoguès, c'est que c'est très compliqué, la technologie a chamboulé les données de la glande, c'est-à-dire que finalement l'homme comme la nature a horreur du vide, et donc finalement quand on n'a pas de travail on va s'oublier, parce que finalement quand on se confronte au vide on se confronte à la mort, on se confronte à l'angoisse, etc. Donc quand je parlais d'aristocratie tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne qui est capable de se confronter à son propre néant et de ne rien faire, ça implique non pas forcément un certain degré d'étude ou de goût, mais ça implique une forte volonté, et la plupart des gens se dispersent. Et la technologie, c'est un expédient pour cela, je crois.
Je parlais des lieux qui favorisent la flânerie, parce qu'il faut bien des lieux pour ça. Hein. C'est pas le métro, ou alors il faudrait une capacité à s'extraire du tumulte. Mais je parlais des cimetières. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la baignoire n'a plus cours dans les pays européens ou l'Amérique. Partout, la douche a remplacé la baignoire. Et pas seulement, je pense, pour des raisons de consommation d'eau. Il y a plein de gens qui disent « Ah non, mais moi, je préfère prendre une douche ». Or, la baignoire, le bain, c'est par définition l'endroit où on est condamné à la flânerie. On ne peut pas avoir de smartphone. C'est difficile de lire un livre, hein, parce que quand même, on va mettre de l'eau dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans une baignoire ?
J'aime beaucoup et les baignoires et les cimetières. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. Ce sont deux lieux très propices à l'inactivité. Et je pense que dans les cimetières, effectivement, tout est interdit. Mais il y a des gens qui viennent de perdre un proche et qui se recueillent, c'est autre chose. Mais autrement, les gens qui visitent les cimetières, ils parlent doucement. Parfois, ils ne parlent pas du tout. Et on est dans un lieu ouvert avec justement au moins pas de culpabilité à ne rien faire, même pas parler. Et ensuite, la baignoire, je pense que c'est aussi un lieu tout à fait intéressant. On peut boire un porto, fumer un cigare sans risquer de s'électrocuter.
C'est un peu aristocratique alors, la glande selon vous, oui.
Ouais, après, bon, on
vous
dépense...
nous appelez en tout cas.
Et puis, je pense que c'est aussi un lieu qui en fait remplace quelque chose comme on est dans un liquide qui fait grosso modo la température du corps, et où le corps qu'on a l'habitude d'avoir, avec ses limites bien définies, qui se protège contre l'extériorité, se détend et même perd justement ses limites. C'est un moment très particulier d'inaction.
Ne rien faire, mais quoi faire ? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. L'émission est consacrée à la paresse aujourd'hui. Et dans quelques instants, on donnera la parole à notre correspondant Frédéric Oujardias à Séoul. Juste après Pink Martini.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander. Quand je glande faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça boule sud, eh?
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler à Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas...
C'est Zoufri Maracas, j'aime pas travailler. Je suis désolée, je vous avais annoncé pire que Martini, mais non, c'est Zoufri Maracas chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI, émission consacrée à la paresse et à l'oisiveté. Nous partons à présent pour la Corée du Sud. C'est le pays du travail et de la vitesse que les Coréens appellent Pali Pali. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Séoul, autant dire que vous avez bossé dur pour nous parler de l'oisiveté dans un pays comme la Corée du Sud. Racontez-nous.
Oui, alors c'est vrai que les Coréens travaillent très dur, ils prennent très peu de vacances et la durée légale du travail est passée de 68 heures par semaine à 52 heures cette année. Alors ça reste beaucoup et beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail passent du temps dans des instituts d'apprentissage. Quant aux enfants, ils consacrent en moyenne 15 heures par jour à étudier sur les bancs de l'école, puis dans les instituts de cours du soir. Ici en Corée, magasins et restaurants sont ouverts tous les jours jusqu'à très tard le soir. Et puis, vous l'avez dit, il y a cette culture du pali-pali, de la vitesse, tout doit venir tout de suite. Un client doit être servi immédiatement, attendre est absolument inacceptable. Et les anciennes générations qui se sont sacrifiées sur l'autel du travail sont à l'origine du miracle économique coréen. Et aujourd'hui, alors que l'économie devient de plus en plus tertiaire, eh bien les réflexes ont été gardés. On reste au bureau très tard. Alors ceci dit, dans ces bureaux, beaucoup font de la présence pour satisfaire le patron et ils ne sont pas très efficaces. La productivité est l'une des plus basses des pays de l'OCDE, mais la Corée reste l'un des pays avec les plus longues heures de travail des pays dits développés.
Donc ça veut dire que vous n'avez pas trouvé de glandeur en Corée du Sud ?
Non, et l'un des symptômes les plus marquants de cette tendance, c'est que les Coréens ne lisent presque plus de livres, ils n'en ont pas le temps. Un enfant coréen sur 7 finit sa scolarité sans avoir jamais ouvert un seul livre autre que ses livres de classe. Alors une culture des loisirs commence bien sûr à se développer, mais elle reste balbutiante. Et la population sud-coréenne est l'une des plus stressées au monde. Selon un sondage fait il y a 2 ans, 9 Coréens sur 10 affirment souffrir de stress. Un stress qui est aussi lié au fort taux de suicide, qui est le plus élevé des pays de l'OCDE. Ceci dit, les jeunes générations commencent à remettre bien sûr en cause cette culture obsessionnelle du travail qui a été transmise par leurs aînés. Les plus jeunes, eux, ils veulent avoir du temps libre, ils veulent voyager, profiter de la vie. Et ils ont plutôt bien accueilli les efforts du gouvernement pour diminuer la pression au travail et pour réduire ce nombre d'heures travaillées par semaine.
Et ces efforts pour réduire le stress et pour découvrir le plaisir de glandouiller se traduisent quand même par des initiatives assez étonnantes.
Oui, alors par exemple, à Séoul, on voit apparaître un nombre grandissant de cafés-siestes, aussi surnommés stress-cafés. Ce sont des sortes de lounges où on peut venir la journée pendant sa pause déjeuner, par exemple, pour boire une infusion, lire des magazines, jouer à des jeux de société, regarder la télé ou piquer un roupillon sur un sofa ou se poser dans un hamac au son d'une musique reposante et d'une odeur de forêt synthétique. Et puis, il y a aussi ce vraiment très amusant concours de glandouille qui est organisé une fois par an à Séoul. Ce concours, il consiste à s'asseoir en tailleur sur l'herbe pendant 1 heure et demie, à regarder dans le vide et à ne rien faire du tout. C'est interdit de regarder son téléphone ou de manger. Et le gagnant, c'est celui qui glande avec le plus de style et dont le rythme cardiaque est resté le plus stable pendant toute l'épreuve. Cette année, 1500 personnes ont demandé à participer à ce concours qui a été fondé par une artiste, Wu Piang. Celle-ci voulait montrer à quel point ne rien faire pouvait être bénéfique pour la santé mentale. Et son événement, depuis, il est soutenu par la mairie de Séoul. Mais il faut quand même rappeler que la leçon reste dure à apprendre. L'un des gagnants, un rappeur du nom de Crush, a déclaré après sa victoire qu'il était si déterminé à gagner qu'il s'était entraîné avant à la maison. Donc oui, en Corée, même les concours de glandes, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de travailler dur pour les préparer.
Merci beaucoup Frédéric Ojardias, en direct de Séoul. Incroyable ces concours de glandouille. Frédéric Chouraki, vous voulez réagir ?
Oui, alors c'est très intéressant parce que c'est vraiment le paradoxe de la glande. Pour moi, c'est complètement opposé à l'idée que je me fais de la glande. C'est-à-dire que ça ne peut absolument pas être quelque chose de contraint, ce concours est pathétique. Et ça me fait penser à ce qui se passe au Japon avec ce phénomène des ikikokomori qui sont finalement les rejetés du système. système. Et là, c'est un peu comme les oblomophes asiatiques, c'est-à-dire qu'ils subissent la glande, c'est-à-dire que dans cette société compétitive, productive, etc., ils sont un peu les outlaws, les déclassés finalement. Ils le vivent très mal. C'est lié à la dépression, au rôle de la mère, enfin, il y a plein d'éléments. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que la France a une réponse, contrairement à la Corée du Sud, etc., on a non seulement des idées, mais aussi on a un art de vivre à la française. Et je regrette qu'avec le régime actuel et la tendance à la mondialisation, au mimétisme avec le modèle anglo-saxon, etc., on soit en train de perdre ce qui fait cette spécificité et pour laquelle justement les Coréens, les Chinois, les Indiens, les Russes viennent de plus en plus nombreux pour apprendre cet art de vivre, etc. On soit en train de perdre ça pour se noyer dans une espèce de... pour ne jurer que par les États-Unis, que par les productivités, les taux de croissance, alors qu'on devrait cultiver justement, quitte à sacrifier le taux de croissance, cet art de vivre et d'hédonisme, etc. Oui. On a quelque chose de profondément culturel, une tradition littéraire, du dandysme, etc., qui est très importante.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'y refais le monde avec 7 milliards de voisins.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On donne la parole à un auditeur qui nous appelle. Jean nous appelle de Kigali au Rwanda. Bonjour Jean.
Bonjour Emmanuel.
Jean, vous êtes missionnaire et là, pareil, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, qui vous inquiète.
Je ne peux pas dire que cela m'inquiète, mais cela m'intéresse.
Ah, dites-nous pourquoi.
Oui, parce que justement, quand j'écoute l'émission depuis le début, et je dis tiens, j'apprends des trucs là concernant ce sujet. Ben parce que étant petit, j'ai toujours bossé à l'école, les devoirs à la maison. Et puis, s'il n'y a pas de devoirs à la maison, c'est les corvées. Mon papa était un homme qu'on appelle busybody, comme on dit en anglais.
Ouais.
Alors donc, j'ai pris ça de lui, moi aussi.
C'est ça, vous pensez qu'il y a une éducation nécessaire à la flânerie ou pas?
Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Peut-être que ça vient naturellement ou bien de la façon que la personne a grandi dans sa famille et tout ça.
Mais la paresse, c'est péché pour vous, qui êtes missionnaire?
Pas du tout. En fait, je crois que c'est nécessaire. Sauf que moi, justement, comme j'ai dit sur votre page, je ne connais pas ce luxe.
Merci Jean, en tout cas, de nous avoir téléphoné. Je voudrais lire aussi le message de Jimmy, qui est à Port-au-Prince, qui nous dit en créole, on dit « Calé ouest, quand il y a un voilier et un vent d'ouest, on s'assied, on ne fait rien ». Et c'est un état d'esprit pour ne rien faire sans se sentir coupable. C'est pas inintéressant, Pierre Kasounogas, l'aspect de la culpabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui doit s'enseigner finalement, se transmettre, un art de la flânerie?
Oui, et puis il faut justement se défaire, on se sent coupable de beaucoup de choses et il faut apprendre à, c'est le fait d'une éducation, et il faut apprendre à se défaire de cette culpabilité. Et pour cela, je pense que des exercices peuvent être intéressants et je serais beaucoup moins critique vis-à-vis de ce concours de glande à Séoul. Évidemment, c'est absurde, mais le fait même que ce soit absurde d'être le meilleur glandeur, ça rend l'exercice totalement inutile. Et même si effectivement il y a ces mesures objectives avec le rythme du cœur, si il y a cette question de l'apparence extérieure aussi, être le glandeur le plus stylé, quoi. En même temps, l'aberration de la chose rend ce temps complètement inutile. Ce rappeur qui a travaillé à glander de la meilleure façon, il a quand même perdu son temps. Et donc des exercices absurdes peuvent justement nous apprendre à nous défaire de cette culpabilité. Peut-être que le rappeur, revenu chez lui, eh bien, il continue à glander une ou deux heures parce qu'il y a pris plaisir. Ouais. Un exemple, c'est dans un roman de Queneau, un personnage, Valentin, qui s'entraîne à pour ne rien faire, il essaye de suivre le mouvement de l'aiguille de l'horloge le plus longtemps possible et à ne pas penser à autre chose, juste regarder l'aiguille. Et c'est un exercice aberrant, mais qui le met véritablement face à une sorte de néant. Et je trouve ces exercices intéressants.
On en est tellement éloigné aujourd'hui d'ailleurs. C'est bien pour ça que vous avez publié La Mélodie du Tic-Tac et autres bonnes raisons de perdre son temps. Mais aujourd'hui, quelles seraient les bonnes raisons de perdre son temps alors que c'est l'horloge qui nous domine?
Bah, le livre, il est thérapeutique, hein, savoir que moi-même, j'ai beaucoup de mal à perdre mon temps et j'ai tendance à remplir chaque heure de la journée d'une multitude, mon téléphone, des toutes sortes de rituels. J'ai beaucoup de mal à perdre mon temps et le livre avait d'abord pour effet, pour objectif de me convaincre moi-même de réussir à retrouver un temps perdu. Mais pour moi, le fait d'un temps inutile qui ne sert vraiment à rien, pas même à être créatif ou à produire quelque chose, un temps vraiment inutile, il nous ramène à une réalité de l'univers qui nous entoure et que nos activités recouvrent constamment. Donc c'est d'une certaine façon, c'est une expérience métaphysique que de vraiment dégager du temps où l'on ne fait rien du tout.
Et qui n'est donc même pas productif.
Oui.
Pas même pour écrire vos livres, à tous
Moi,
les
je
deux.
Je pense que, par exemple, pour écrire un livre dans mon cas personnel ou pour créer, il faut ce temps de latence. En fait, il y a toutes des études qui ont montré que le cerveau, comme l'ordinateur, avait besoin de se reset, de se reprogrammer, et donc de faire le vide un moment, une sorte de mémoire morte pour pouvoir après recréer. S'il n'y a pas ces moments de flânerie ou... mais même où on se nourrit du cinéma, etc., la création ne peut pas advenir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est tout le temps le nez sur son ordinateur, sur son smartphone, sur son iPad, tout le temps en train de combler une sorte de vide métaphysique, ne pourra pas créer. Ou alors ça sera des choses... Là, par exemple, j'ai l'exemple de Marcel Proust. Enfin bon, je n'étais pas là, mais je pense qu'à un moment, il a vécu certains salons du Faubourg Saint-Germain, etc. Et à un moment, il est resté chez lui en robe de chambre et il a passé son temps à condenser un petit peu tous ses souvenirs, etc. Et les choses ont infusé un petit peu, un peu comme ça, Madeleine, etc. On ne peut pas créer si on n'a pas cette capacité avant. L'art, par exemple, c'est, même s'il y a quelque chose de productif, je ne parle pas de l'artisanat, l'art est le préalable de l'art, c'est la glande, quoi. Et donc, dans une société qui est entièrement tendue vers l'utilitarisme, vers le productivisme, etc., il n'y a plus de... Donc, pour moi, j'ai une petite nuance avec Pierre Gassou-Noguès. Pour moi, la glande doit être quand même nourrie. Enfin, il peut y avoir de la glande complètement néanteuse, etc., si je puis dire.
Vous, c'est une glande qui est tournée vers l'extérieur,
c'est une glande
quand même,
positive,
vers les autres. Hein.
C'est un art de vivre.
Je
passe beaucoup de temps tout seul. Et pour moi, le vrai plaisir, c'est par exemple le matin, je me réveille et je me dis, pas je vais rester dans mon lit comme Hutchinson, mais je me dis, tiens, qu'est-ce qui passe au cinéma? Enfin, comme je vous disais tout à l'heure, etc. Donc, mais simplement, ce sont des choses que j'ai envie de faire, qui me font plaisir. Et après, par exemple, c'est vrai que j'aime rester au café et regarder les gens passer en lisant d'un œil mon journal.
On est dans un pays où c'est encore largement possible, effectivement. Les villes, même s'il y a beaucoup de cafés qui ferment, tout à fait.
De moins en moins. Hein.
Mais c'est vrai que c'est pas forcément le cas partout, d'être à l'extérieur et en même temps de perdre son temps en regardant le monde continuer. Merci en tout cas à tous les deux pour cette flânerie auditive. On a beaucoup appris. Frédéric Chouraqui, vous publiez La France qui glande, c'est publié chez Milan. Et Pierre Gassou-Noguès, vous publiez La mélodie du tic-tac et autres bonnes raisons de perdre son temps chez Flammarion. Je vous souhaite un très bon week-end
Merci.
À tous les deux. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, comme chaque semaine. C'est la chronique de Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes pédopsychiatre, directrice de la revue transculturelle L'Autre. Et aujourd'hui, une question... Les mots ont-ils le pouvoir de guérir? Alors, beaucoup d'écrivains estiment que la littérature a ce pouvoir-là, que ça peut soulager le chagrin, la nostalgie. Mais pour les psys, qu'en est-il?
Oh, ben les écrivains ont raison. Et pour les psys, cette question s'est posée depuis longtemps. Par exemple, on en trouve des traces dans l'Antiquité, où on s'est déjà posé cette question. Je pense au texte laissé par le grand médecin perse, Avicenne, un peu plus tard. Donc, et il note que si quelqu'un a une humeur noire, le seul traitement, c'est de lui parler. C'est pareil dans plein de cultures dans le monde où il y a des chamans ou des guérisseurs. Certains utilisent des plantes, des objets, mais la plupart utilisent des mots particuliers qui soulagent et font du bien à ceux qui les entendent. Des mots qu'ils utilisent comme des médicaments, en quelque sorte, des médicaments prescrits par un médecin, celui qui les prononce.
Alors, il y a les mots dits par ceux qui souffrent ou qui sont inquiets, et puis ceux qui sont dits par le thérapeute, celui qui est censé soulager par les mots.
Effectivement, il y a plusieurs types de mots en fonction de la place et des besoins. Et d'ailleurs, dans la psychologie actuelle, ces traitements par les mots, il y a plus de 500 techniques différentes de traitement par les mots, mais on appelle ça des psychothérapies.
Est-ce que ça marche aussi pour les enfants ?
Alors oui, c'est particulièrement vrai pour les enfants et les adolescents. Je pense par exemple à la petite Gül, une petite fille née en France dans une famille turque qui vit en France depuis une dizaine d'années. Gül est la première de la famille et ses parents sont très très attachés à elle. Elle rentre à l'école maternelle, tout va bien pendant ses 3 premières années dans l'école française. Elle est très heureuse. Elle se présente comme une petite fille enjouée, sage et qui apprend facilement. Mais voilà, quand elle rentre au cours préparatoire, dès le jour de la rentrée, elle arrête de parler à l'école. Elle ne parle ni à sa maîtresse, ni à ses camarades, ni aux autres adultes de l'école. Elle ferme sa bouche, comme dit sa mère. À l'intérieur de la maison, elle parle le turc et le français avec entrain. Elle joue à la maîtresse. Sa mère l'a enregistrée. Elle fait répéter à ses poupées ses récitations. Mais dès qu'elle sort, elle suspend son langage à l'extérieur. Elle est effrayée. Elle a peur de ne pas pouvoir être la même lorsqu'elle est dedans et dehors.
Alors comment rendre le langage à cette petite fille ?
Oui, comment lui rendre le langage et comment lui diminuer sa peur, hein, parce que c'est vraiment une frayeur qu'elle a à l'intérieur d'elle. Alors il y a plein de techniques différentes, justement avec des mots, avec des dessins. Alors avec Gül, nous avons utilisé une manière de faire, une thérapie par le conte. On lui a demandé de choisir sur un livre un conte et elle a tout de suite choisi le Petit Chaperon Rouge.
Oui. Et donc, qui n'est pas vraiment un conte relaxant quand même, hein,
non,
si on a peur du loup.
Non. Il est même cruel, mais elle avait besoin de ça, cette petite Gül. Donc on s'est mis à jouer, Alors nous on parlait, elle ne parlait pas. Et elle a choisi d'être le Petit Chaperon Rouge, celle qui va passer du monde de sa mère à celui de sa grand-mère. Donc elle va apprendre avec ce conte à tuer ses peurs, celles qui sont incarnées par ce loup qui la menace et qui l'empêche d'être en paix avec le monde, en particulier le monde de ses grands-parents. Dans le jeu, elle va tuer avec une rare violence le loup. Et cette violence est à la mesure de ce qu'elle ressent. Elle va très vite apprivoiser ses peurs ensuite et pouvoir passer d'une langue à l'autre, d'un monde à l'autre. Mais pour cela, il faut qu'elle puisse se raconter à elle-même ce qui lui fait peur et ce qui l'empêche d'utiliser toutes ses compétences. Et alors, c'est en jouant avec les situations et en trouvant les mots qu'elle va guérir. Ouais. En fait, c'est pas seulement les mots qui vont l'aider à guérir, c'est le fait qu'elle puisse trouver les mots pour elle-même.
C'est ça, verbaliser. Les mots guérissent vraiment les blessures, les angoisses des enfants ?
Ah oui, c'est vraiment un baume. D'ailleurs, parfois, lorsque les enfants tombent, on va dire, on va souffler dessus, on va dire des mots. Ça, c'est des choses traditionnelles qu'on trouve dans plein de pays du monde. Mais d'une manière générale, les mots aident les enfants à grandir, à guérir des petites peines, mais aussi des grandes, hein, par exemple, des chagrins, des deuils. On doit parler aux enfants, on doit leur permettre de jouer, les aider à trouver, à se raconter à eux-mêmes ce qui leur arrive, ce qui leur fait peur, et leur permettre, comme cela, d'affronter ces moments difficiles et surtout de les renforcer pour d'autres épreuves tout au long de leur développement.
Eh bien voilà, je crois qu'on a fait la paix avec les mots, hein, pour ceux pour qui c'est un problème. Merci à vous, Marie-Rose Moreau. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Vous avez publié, entre autres, « Aimer ses enfants », ici et ailleurs, aux éditions Odile Jacob. Lundi, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les nouveaux pères. Alors que les femmes sont de plus en plus polyvalentes, les pères sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur leur place. À quoi je sers en tant que papa? Quelle valeur transmettre entre autorité, affection, complicité? On verra quel père vous êtes. À lundi, les voisins et les voisines.
Ce dimanche.